Merci à nos gardiennes de s'occuper de nos petits bouts de choux. On s'en va dans Philémon. Nous sommes dans cette lettre. Pour le départ du message, on va regarder notre fameux mot dans deux autres endroits, mais on commence dans Philémon. Si je vous raconte une petite histoire de quelqu'un qui aimait bien son ami. Il aimait bien plus que juste un ami, il l'aimait comme un frère. Et leur relation avec le temps a grandi à travers l'expérience, les épreuves traversées qui ont rendu chacun, mais aussi leur relation, plus fort. Parce que le Seigneur était le centre de cette amitié fraternelle et des événements qu'ils ont traversés ensemble. Mais là, les choses ont pris une tournure vers de nouvelles épreuves et afflictions. Et en plus de cela, une personne s'ajoute au tableau pour amener un nouveau problème, une grande offense perpétrée contre l'un de ses deux bien-aimés amis. Tout allait mal humainement. Les ténèbres étaient épaisses et lourdes parce que la situation s'aggravait. Mais Dieu, qui jette la lumière de l'Évangile dans le cœur de ce nouveau joueur qui s'était rajouté, a transformé complètement les choses et c'est devenu la lumière au bout du tunnel. La lumière qui a redonné espoir à Paul en prison, qui écrit à son ami, son bien-aimé frère, Philémon, propriétaire de cet esclave fugitif, Onésime, qui a été retrouvé, non seulement physiquement, mais comme un frère bien-aimé, et qui maintenant allait être bien plus que juste un aide à Philémon et à Paul, mais qui allait être un instrument pour propulser l'œuvre de l'Évangile encore plus loin. C'est ça le titre du message aujourd'hui, « Christ, notre lumière tranquillisante ». Et on voit ça à deux reprises dans le verset 7 de Philémon. Paul parle à son ami et dit « J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. » Puis regarde aussi au verset 17 « Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. » Voyez-vous comment c'est empreint de Christ, de son amour dans la relation? Ce n'est pas une relation fortuite et passagère, ou je dirais de surface. C'est une amitié profonde. Et Paul lui parle, en continuant au verset 18, « Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. » Voyez-vous encore comment c'est christique tout ça? Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai, pour ne pas dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. Seigneur, on vient devant toi avec cette lettre merveilleuse, Seigneur, inspirée de Dieu. On sait que c'est des événements réels qui sont arrivés il y a environ 2000 ans. Mais Seigneur, tu as inspiré ces choses et c'est poussé par l'Esprit que Paul a écrit ces choses. Et Seigneur, c'est pour notre instruction, c'est pour ton œuvre ici maintenant en 2022. Ta parole est d'actualité. Amen. Seigneur, sonde nos cœurs, sonde cette église, sonde chacun de nous et surtout, Seigneur, révèle en nous ton Fils. Comme Christ était le centre de cette belle amitié, comme Christ a été celui qui a viré les choses pour amener la lumière au bout du tunnel par le salut de ce bien-aimé frère Onésime, Seigneur, que de la même manière, Seigneur, tu sois le centre de nos vies, de nos relations, de cette église. Pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Vous savez, Jésus était vraiment la lumière dans les ténèbres dans lesquelles Paul était. Je ne veux pas passer là-dessus trop vite. Paul était rendu un vieillard. Tu sais, des fois, on a mal un peu partout. Imaginez-vous être dans une prison humide, inconfortable, mal mangé. Déjà, il était faible physiquement de par... Il a été battu. Puis ça, c'était un homme qui avait eu une feuille de route extrêmement difficile. Et là, il se retrouve comme ça en prison pour avoir prêché l'Évangile. Ça, c'est une situation très difficile pour lui. Et Dieu y envoie un esclave qui est en prison aussi parce qu'il est en fuite. Et ça a été le moyen par lequel Dieu a amené la lumière au bout du tunnel. Onésime a amené vraiment une nouvelle tangente à toute cette histoire que vous connaissez. Mais ce que j'aimerais juste amener ici, c'est que dans un monde où les ténèbres sont là, on peut dire dans le monde en général, mais même, on vit des relations qui sont brisées par le péché, qui sont envenimées à cause de l'égocentrisme, de la colère, à cause de toutes sortes de choses. Et c'est ça la beauté glorieuse du récit de Philémon, c'est que Dieu, en plein là, amène la lumière. Et c'est la puissance de l'Évangile dans cette situation, comme aussi dans notre vie, dans nos familles, dans cette Église qui est l'espoir. C'est la lumière de la vie, pour prendre l'expression qui est utilisée dans Jean 8, 12. Cette lumière qui tranquillise le cœur. Paul le dit à deux reprises. Et on va regarder plus en détail ce mot-là dans un instant. Mais comme on a besoin en ce moment, là, de cette lumière tranquillisante dans nos ténèbres, dans la situation dans laquelle nous vivons, parce que Christ est venu comme étant la lumière dans le monde et c'est notre espoir. Et ça tranquillise nos cœurs. Maintenant, je veux juste amener quelque chose tout de suite en partant. Ça va pour catégoriser, on peut catégoriser le monde en différentes catégories. Déjà, bibliquement parlant, il y a ceux qui sont en Adam, puis il y a ceux qui sont en Jésus-Christ. En Adam, c'est on est en Adam, c'est notre de naissance, nous sommes morts dans nos offenses et nos péchés. Mais quand on est né de nouveau, nous sommes placés en Jésus-Christ. Fait qu'on peut déjà avoir deux catégories. Il y a ceux qui sont en Adam, ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais dans la famille de Jésus-Christ, ceux qui sont en lui, on peut faire une sous-catégorie. Bon, on pourrait le faire aussi dans les autres catégories, mais il y a ceux qui sont tranquillisants, puis il y a ceux qui sont stressants. Puis, non, mais pensez-y. C'est quelque chose de sérieux que j'amène à matin. Il y en a qui sont tranquillisants, puis il y en a qui sont stressants. L'un apporte Christ, la lumière tranquillisante dans les situations, les relations, parce que ses regards sont sur lui, pas parce qu'il est parfait, pas parce qu'il est parvenu, parce qu'il s'accroche à lui, parce qu'il porte ses regards vers lui. L'autre apporte la confusion, l'irritation, la tension, parce que les regards et sa vie est centré sur lui-même. Et des fois, c'est même fait au nom du Seigneur, mais ça ne change pas. Que l'un est tranquillisant, l'autre est stressant. Donc, la question ce matin, quel type de personne es-tu? Et le message est non seulement la réponse à la question, mais surtout la solution. Avec Christ, notre lumière tranquillisante. On va voir trois façons, avec Philémon, mais aussi avec deux autres textes ce matin, trois façons par lesquelles vivre ou laisser Christ vivre à travers nous pour être une lumière tranquillisante dans ce monde de ténèbres. D'abord, dans la lettre de Philémon, on voit que ça arrive. La première façon, c'est par la coopération. Et je vais vous l'expliquer plus en détail, mais à deux reprises, je l'ai dit, Paul dit à Philémon qu'il tranquillise le cœur des saints. Et Paul dit aussi que Philémon, il dit, tu vas tranquilliser mon cœur en agissant ainsi. Et le mot tranquilliser signifie compléter, occuper, accomplir, remplir. Je n'ai pas vérifié toutes les versions. Je sais qu'en anglais, ça dit refresh, rafraîchir. Dans le sens de renouveler, tu sais, en fond, on arrive de voyage, par exemple, I'm going to go refresh myself, je vais aller me rafraîchir, je vais peut-être prendre une douche, moi aussi, c'est comme bon, tu sais, je suis un peu tout déflaboxé, décousu après mon voyage, je vais me compléter, je vais aller, dans le fond, ce qui a été perdu à l'usure, on va aller rafraîchir ça. J'aime bien le mot tranquilliser, ça capture bien le concept, l'image de ce mot grec. Qui est vécu par Paul en prison, qui voyait, de par la conversion d'Onésime et la réconciliation qui s'en venait avec Philémon, parce qu'il ne doutait pas que Philémon allait le recevoir, cet esclave, mais aussi Onésime allait là, lui-même voulant la réconciliation. Il avait fui, mais là, il voulait retourner. Il savait que ça aurait pu être du problème. Donc, on voit vraiment cette image forte de la réconciliation de l'Évangile. Et c'est la lumière au bout du tunnel si on connaît déjà la réponse d'Onésime parce qu'il y va, mais il fallait que Philémon réponde par la foi et par l'amour. Il fallait qu'il croie que c'était vrai que ce que Dieu faisait dans la vie d'Onésime, puis il fallait qu'il l'aime, celui qui avait amené de la souffrance dans sa vie, celui qui avait amené du trouble. Oh, combien ça souligne comment l'Église implique obligatoirement un travail d'équipe, la coopération. Il y a des choses qui vont se passer si on ajoute foi, si on aime quand c'est dur d'aimer. L'amour, des fois, c'est tellement déformé dans le monde. L'amour, c'est réduit souvent à une sentimentalité dans le monde. L'amour, c'est tough. L'amour, c'est d'aimer quand que on... envers et contre tous. C'est un sacrifice d'aimer, c'est pas facile. L'amour, c'est d'accepter de souffrir pour le bien et même pour le péché des autres. C'est ce que Christ a fait. Et ça amène toute la question vitale de la coopération dans une église comme la nôtre pour que la vie et la croissance du corps de l'église, puis littéralement, hein, dans une église, qui s'est comparé à un corps, vous savez comment que tout est coordonné et aussi interdépendant. C'est-à-dire, si un membre dit « Ah, moi, j'ai plus le goût, ou, moi, je suis pas content », puis là, tout le monde en souffre. La coopération est tellement importante. Je vous le souligne avec un verset ici, dans Éphésiens 4, 16. Ici, ça parle de Christ. C'est « De lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Comment? Quand il y a cette coopération-là. C'est grâce à lui. C'est lui qui fait le travail. Mais est-ce que je suis un instrument d'édification entre ses mains par la coopération qui tranquillise les cœurs, les situations, les relations difficiles? Ou est-ce que tu es un instrument de friction, de division, qui amène le stress? La différence entre les deux, c'est sur quoi je suis centré. Sur quoi mes regards se portent, sur moi-même ou sur Jésus-Christ? J'aimerais vous dire ce matin qu'il n'y a pas d'entre-deux. C'est deux voies distinctes, une qui part par là, puis l'autre qui part par là. Et ça ne peut pas être les deux en même temps, parce que la Bible nous dit... Écoutez ce que ça dit dans Romains 8, 5 à 8. « Ceux, en effet, qui veulent vivre selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Car la chair, même si elle a des bonnes allures puis tout ça, quand c'est nous, c'est notre chair, ça l'amène la mort, la séparation. L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitiée contre Dieu, elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est soit l'un, c'est soit l'autre, par l'esprit ou par la chair. Les deux sont diamétralement opposés. Ça m'amène à la deuxième façon par laquelle Christ, notre lumière, tranquillise les cœurs. lorsqu'il y a cette coopération-là, que la foi embarque, qu'on voit au-delà de ce qui frappe à l'œil, lorsqu'on voit que là où il y a du péché, la grâce surabonde, lorsqu'on voit que les problèmes ne sont pas des finalités, mais des occasions pour Dieu de nous rencontrer là, puis de lui faire ce que juste lui est capable de faire, ça nous amène au deuxième point, l'appréciation. On va voir le même mot grec, traduit de la même façon en français, dans 1 Corinthiens chapitre 16. Donc, tournez avec moi dans 1 Corinthiens au chapitre 16. On va voir ce mot. La coopération, maintenant, l'appréciation. 1 Corinthiens 16, on va lire au verset 17 et 18. Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunas et d'Achaïcus, excusez. Parce que j'en connais pas beaucoup des Achaïcus, excusez-moi. Là. Ils ont suppléé à votre absence, car ils ont tranquillisé, c'est notre mot, tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. Puis si on compare ça à Colossiens 3, 14 et 15, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Reconnaissance, appréciation. Vous savez que des fois, c'est pas facile d'apprécier du monde qui sont pas toujours appréciables. C'est pas toujours facile d'être reconnaissant pour des gens qui nous ont fait mal. Mais Dieu ne nous demande pas de faire l'impossible. C'est lui qui a versé son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. C'est pas nous qui devons le faire. Nous, on n'est pas capable de le faire. Probablement, vous avez tout essayé et vous avez échoué comme moi. Puis c'est lamentable. Puis on ne veut pas retourner là. Mais Christ, son amour dans nos cœurs, lui, il peut. Lui est plus grand que les problèmes, que les situations qu'on peut avoir. Et il procure la paix en nous et entre nous. Ah, c'est pas toujours possible. La Bible nous dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Mais lorsque c'est là, cette vraie appréciation, cette reconnaissance authentique, ça se fake pas. En bon québécois, on peut pas y faire semblant parce que c'est le sceau de la présence du Dieu de paix en nous et avec nous. Et d'ailleurs, j'ai là-dessus deux passages que j'aime beaucoup. J'avais pensé juste dire le verset 9 dans Philippiens, mais je vais commencer au verset 6 parce que c'est tellement beau. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu par des prières et des vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Ça nous dit aussi dans Jacques 3, 18, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Est-ce que c'est ce qui s'exprime dans ta vie? Puis je te dis pas d'essayer. Je te dis, est-ce que cette vie de Jésus s'exprime à travers toi? Est-ce que c'est ce qui sort de ta vie? Si ta vie était pressée comme un citron, est-ce que c'est ça qui en sortirait? Et là, je ne dis pas juste quand tout va bien et que tout est beau, mais je dirais surtout, c'est vrai, lorsque c'est l'épreuve, lorsque l'amour est éprouvé, et qu'il doit y avoir ce choix d'accepter de souffrir. Qui veut souffrir? On a à souffrir pour les uns pour les autres. Savez-vous ça? C'est ça qui est dur. C'est beau un beau dimanche matin, tout le monde s'aime, tout le monde est gentil, mais des fois, c'est pas aussi beau que ça. Des fois, c'est tough. Mais il faut qu'on accepte de souffrir pour le bien, puis même, oui, pour le péché des autres. C'est ça l'épreuve de la foi. J'ai hésité à le mettre, mais en même temps, je suis content de le mettre parce que tellement content de voir ce que Dieu fait dans ta vie, Eric. Puis, ça fait 15 ans qu'on se connaît. On disait, ça fait 15 ans qu'on se connaît. Puis, je vous assure, on a passé par toutes sortes d'épreuves de la foi. Mais ce qui est beau là-dedans, c'est que on n'en est pas pire. On en est mieux. Notre amitié n'a pas régressé. Notre amour l'un pour l'autre n'a pas rapetissé. C'est vraiment le contraire. Elle est renouvelée pour aller atteindre maintenant des nouveaux sommets. Ça, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu. C'est Dieu qui l'a fait. On ne s'est pas levé un matin en voulant se redresser mal. C'est Dieu. Puis tu sais, il y a quelque chose qu'on peut dire. Hein, Eric, je me rappelle, on parlait de ça en conversation. C'est quand même un spécial proverbe. C'est un proverbe spécial pour une amitié. Ça dit, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Mais quand on le met en contraste avec la fin du verset, mais les baisers d'un ami, d'un ennemi sont trompeurs. Savez-vous quoi? Je pense qu'on apprend à s'apprécier mutuellement de plus en plus, pas parce que tout a été beau, puis facile, puis qu'on n'a pas eu de problème. En fait, c'est vraiment le contraire. On s'apprécie parce que Christ a été la lumière au bout du tunnel dans toutes ces affaires-là. Amen. Amen. Puis il nous apprend à nous aimer. Parce que le problème, c'est pas souvent qu'on n'aime pas. Souvent, c'est qu'on aime mal. Ça résonne-tu avec vous, ça? Hey, du monde qu'on aime profondément, mais on les aime mal. Surtout les plus proches, on a besoin d'apprendre à aimer. Apprendre à accepter de souffrir parce qu'on aime l'autre. Puis parce qu'on veut que Christ soit formé en nous, entre nous, puis dans l'autre aussi. Et c'est ça la fidélité qui ressort avec toutes les blessures qu'il peut y avoir. Et c'est ça qui amène à Christ à être formé en nous puis à grandir au milieu de nous autres. Savez-vous, je pense que des fois, on a brisé des relations en gagnant des arguments, en gagnant, en gardant notre point, mais on a perdu. Pourquoi? Parce qu'à vouloir tellement avoir raison pour avoir notre façon, on a perdu le plus important. On a perdu la relation, on a perdu cet amour entre les deux. Des fois, on dit pour gagner des gens au Seigneur, c'est mieux de gagner les cœurs que gagner un argument. Vous savez, pour gagner quelqu'un au Seigneur, là, c'est pas juste avec l'apologétique puis tout ça. Ça, c'est pour enlever les débris pour arriver à l'Évangile et à Jésus-Christ. L'apologétique a sa place. Mais pour gagner les cœurs, c'est avec l'amour de Christ, avec la vérité de l'Évangile. Et c'est pareil dans les relations fraternelles. Des fois, on était perdants au bout du compte parce qu'on a insisté et on a voulu avoir à notre façon. Mais parce qu'on a voulu avoir raison, excusez-moi le jeu de mots, mais on en a presque perdu raison. Parce que sur cet autel de vouloir avoir les choses à notre façon, on a sacrifié le plus précieux. On a oublié de s'apprécier. Le test de l'amour vivant qui s'ouvre pour le bien et le péché des autres, c'est l'appréciation. Pas dans la facilité et la beauté des sommets, mais dans la difficulté des bas-fonds. C'est ça le test. Le reste, c'est de la théorie, c'est facile à dire. Tout le monde est capable de dire ça. Mais la vraie vie, là, c'est quand c'est vraiment dur. Puis vous le savez, vous avez des relations, des fois dans le couple, dans la famille, des amitiés, que vous savez que c'est ça qui a fait que ça l'a passé puis que c'est plus fort. Et dans une église comme la nôtre, ceux qui s'accrochent quand tout va mal et que les relations et les conflits sont difficiles, mais qui en ressortent avec une nouvelle appréciation, ont le cœur tranquille. Ils ont le cœur en paix. Il y a une joie, il y a une paix qui surpasse toute intelligence, qui peut même pas... Ça ne s'explique pas. Parce que ça vient de Dieu. Puis la Bible nous dit, sache apprécier de tes hommes. Si ici, là, c'est des gens qui se sont sacrifiés pour l'œuvre du Seigneur, Ils ont suppléé à l'absence de Paul. Ils ont tranquillisé son esprit. Pourquoi? Parce qu'ils étaient prêts à mettre leur coup sur le bio, si je peux m'exprimer ainsi. Ils étaient prêts à payer le prix. Puis Paul dit, appréciez des personnes comme ça. Qu'on apprécie ceux qui, à travers les difficultés, persévèrent. Ceux qui, quand ça fait mal, abandonnent pas. Ceux qui, quand sont blessés, voient au-delà et recherchent la guérison de Christ. Et à cause de ça, ils peuvent eux-mêmes devenir des agents de la consolation du Saint-Esprit. Amen. Sachez apprécier de tels hommes, de telles femmes. Ou je devrais dire des hommes et des femmes de cette trempe. J'ai un autre petit mot. Les old-timers de l'Église. On a passé à travers toutes sortes d'affaires, hein? Puis je pense que je le dis pas assez souvent, mais je vous apprécie tellement. Parce que vous êtes le visage de cette Église, puis quand le Seigneur nous envoie des gens... Ah oui, écoutez le prédicateur, mais le prédicateur, c'est juste une petite affaire de l'Église. Il voit le visage de l'Église à travers vous, puis vous donnez le ton. Puis je suis vraiment reconnaissant parce que vous êtes des hommes et des femmes de qualité. Puis je ne vous le dis pas assez souvent, mais je vous apprécie énormément. Excusez-moi. Mais non, on ne devrait pas s'excuser, hein? Linda me disait ça. Merci. On n'a pas s'excuser, on s'excuse quand on s'excuse pas quand on rit. Pourquoi qu'on s'excuse quand on pleure? C'est des émotions, puis c'est normal. Elle nous disait ça l'autre jour, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça de même. Non. Tu sais, puis les old-timers, je veux pas vous lancer des fleurs, là, OK? Vous êtes pas parfaits, puis on a souffert différents. Des fois, on s'est fait souffrir l'un les autres. C'est pas ça mon idée, là. De dire, ah, on est donc beau, on est donc fin. Non, mon idée, c'est de dire que Christ est vivant dans votre vie, puis vous le laissez agir, puis vous n'êtes pas des exemples de perfection, mais ah, vous êtes des exemples de c'est quoi la rédemption dans la vie de quelqu'un. Et je veux vous exprimer mon appréciation pour ça. Ou je pourrais le dire autrement, dans les paroles d'un Thessaloniciens 4:1. Au reste, frère, puisque vous avez appris comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. C'est ça, la rédemption de Christ, c'est aller de progrès en progrès. Et c'est tellement précieux, c'est de l'or en bord. Et savez-vous ça? Savez-vous quoi? Que c'est comme ça que le Saint-Esprit exerce son ministère, parce que le Saint-Esprit, c'est le Consolateur. Mais il utilise l'instrumentalité. La Bible nous dit que nous avons le ministère de la réconciliation. Un ministère qui nous rapproche, pas qui nous éloigne, c'est un ministère de vie. Et nous avons aussi le ministère de la consolation. Et ça, c'est tellement précieux, ça m'amène à la troisième façon par laquelle Christ est la lumière tranquillisante dans nos vies, justement par la consolation. On est dans 1 Corinthiens, allez dans le deuxième épître aux Corinthiens, et on va regarder au chapitre 7. Pour ceux qui connaissent 2 Corinthiens, il y a un point de rupture au début, puis ça reprend ici au passage où est-ce qu'on va lire. Paul leur parle de ce qui arrivait, il vivait de la persécution, puis ça. Puis là, après ça, il se met à parler, il part sur une tangente, une parenthèse de 5 chapitres sur toutes sortes de choses qu'il se met à aborder. Puis c'est comme s'il a laissé le côté pratico-pratique, il dit on souffrait, c'était où donc la place? Parce que Paul, on sait, hein? Disons qu'il a beaucoup souffert pour le Seigneur. Il était en Macédoine, souffrait pour le Seigneur et tout ça. Puis il se met à parler d'autres choses. Et rendu au chapitre 7, verset 12, il revient sur, dans le fond, l'objet de la lettre, pour les remercier et tout ça. Puis là, il leur parle de Tite. Donc, il dit si... Puis là, on va juste lire quelques versets. On ne va pas tout lire le passage, ça serait trop long, là, mais... Tite est arrivé avec la nouvelle de la repentance des Corinthiens. Et donc, on peut juste lire, parce que je veux qu'on voit notre mot, là, au verset 13, mais on va commencer au verset 12. « Si donc je vous ai écrit, donc 7:12, ce n'était ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçu, c'était afin que votre empressement pour nous soit manifeste parmi vous devant Dieu. C'est pourquoi nous avons été consolés. Mais outre notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite dont l'esprit a été tranquillisé par vous. Paul avait envoyé Tite à Corinthe pour avoir des nouvelles sur la fameuse situation de péché, le grand problème qu'il y avait là-bas, puis il voulait savoir est-ce qu'ils se sont repentis. Parce que Paul avait écrit, Paul, c'est une situation qui le tracassait, il était stressé par ça, puis il a été consolé parce que Tite est revenu tranquille. Oui, ils se sont repentis. Oui, ils ont écouté ce que le Seigneur avait à leur dire. Et le cœur inquiet de Paul a été tranquillisé lui aussi par ses frères bien-aimés qu'il aimait tant, les Corinthiens. Et donc, ce qui arrivait dans le cœur de Tite a eu un effet sur tout le reste, et Paul en témoigne. Et on peut dire que Paul a été tranquillisé, rempli, complété par le constat que Tite a ramené. Parce qu'il y avait un vide. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'ils vont se repentir? Et tout ça, ça m'amène à vraiment un point tellement important. Vous savez, des fois, il y a des situations qui nous brisent le cœur. Pourquoi? Moi, ce que je vous dis là, ce que je trouve le plus difficile, personnellement, dans ma vie, c'est des enfants de Dieu, ou des fois même, c'est pas nécessairement des enfants de Dieu, mais spécialement chez les enfants de Dieu, qu'on aime, pour lesquels on désire ce qu'il y a de mieux, mais qui refusent de se repentir, qui s'endurcissent. On les aime, on veut les aider, mais ils résistent. Puis ils insistent sur leur volonté. Ça, c'est dur. Tu peux rien faire. Ben, tu peux prier, puis tu invoques le Seigneur. Mais humainement parlant, c'était ça, Paul, là. Il y avait la lettre, puis il fallait qu'il attende, il fallait que j'attende à Dieu. Ils vont-tu se repentir, les Corinthiens? Fait que là, quand c'est arrivé la nouvelle, yes! C'est ça, ici, le contexte. C'est des gens que là, ils se demandaient qu'est-ce qui va arriver, puis il a été tellement... Ça l'a consolé dans son cœur. Pensez des fois avec un enfant qui s'éloigne, qui est rebelle. Comment c'est dur pour le parent. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut pas aller le tirer. Puis essayer de le ramener. Il faut qu'il revienne de cœur comme le fils prodigue. Écoutez ce que Paul dit par rapport à l'affection qu'il peut avoir. Et c'est drôle, ça, il prend le rôle de mère et de père pour illustrer ça. Il parle aux Thessaloniciens, une autre église. Écoutez ce que ça dit. Ça dit dans 1 Thessaloniciens 2, je vais lire les versets 5 à 12. « Jamais en effet nous avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice. » Prends un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frère, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'heure, pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Quelle consolation pour quelqu'un qui a comme ça un cœur de maman, de papa, de voir que la réponse est favorable. Oh, mais quelle douleur quand on est dans l'attente. C'est dur d'attendre. C'est dur d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Parce que des bruits, les pensées s'agitent en foule au-dedans de nous. Mais tes consolations éternelles réjouissent mon âme. C'était pas écrit sur ma feuille, j'ai le droit pour un chocolat, celle-là. Ça boucle la boucle avec l'ensemble du message, parce que lorsque on fait preuve de coopération dans l'œuvre de Dieu, d'appréciation mutuelle envers ceux qui sont dévoués, fidèles, dirigés par le Seigneur pour tranquilliser nos cœurs, par opposition à être irritant ou stressant, qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire une consolation durable. Et je pense que c'est ce qui aussi qui est l'arrière-plan de Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et eux pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ça sert à quoi? Tout le monde est perdant quand on résiste. Mais quand il y a cette coopération, quand il y a en même temps cette appréciation, oh, quelle consolation ça l'amène, quelle joie. Et c'est mon désir que notre Église grandisse là-dedans, que ça soit ce qui la caractérise. Une Église où il fait bon vivre, où on sera, savez-vous qu'on ne sera jamais exactement tout comme on voudrait que les autres soient, ou que ça ne va jamais arriver. Là, je veux vous le dire tout de suite, là, ça va arriver au ciel. J'entendais nos sœurs tantôt. Moi, il y a quelque chose que je trouve tellement précieux. Ils chantaient dans la langue de leur cœur, puis ça me donne un avant-goût du ciel. Savez-vous, au ciel, on va être des gens très différents de nous autres. Ah, oh, mais ça va être beau, ça va être bon, parce qu'on va être unis parfaitement dans l'amour de Christ, puis dans la vérité. Plus de mensonges, plus de tromperies, plus d'hypocrisie. Puis on va tous chanter la même louange au Seigneur. Je ne sais pas trop dans quelle langue, par exemple. Ça, c'est un mystère à résoudre. Oui, amen, enfin, on va l'entendre chanter comment il chantait ça. Ça dit jeu d'instrument. Je ne sais pas c'était quoi son jeu d'instrument. Mais j'aimerais vous dire, pour qu'on soit caractérisé par ça, là, soyons réalistes, et j'arrive à la fin, il y a un prix à payer. Il faut accepter de payer le prix de la foi qui voit au-delà de ce qui est devant notre face et qui nous dérange. Au-delà du problème, au-delà de la différence, au-delà de la blessure, afin d'expérimenter Christ, notre lumière tranquillisante. La lumière au bout du tunnel. Et je pense que c'est sorti tantôt dans le temps de prière, mais je conclue avec ce verset d'Ésaïe, chapitre 30, on parle de tranquillité. C'est pas le même mot, parce que dans le Nouveau Testament, c'est en grec, puis là, c'est en hébreu, mais... « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, Ésaïe 30:15. Le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Ah, mais je ne vais pas lire le dernier bout. Mais vous ne l'avez pas voulu. Et que c'est triste. Mais si on regarde la première partie, dans le calme et la confiance, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, le calme et la confiance que sera votre force. Ça résume bien l'esprit du message que je vous amène aujourd'hui. Notre salut, notre délivrance dans les problèmes, les situations qu'on peut avoir, c'est d'attendre calmement le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Mais est-ce que l'agitation, la précipitation, le stress t'empêche de jouir de cette promesse et te rend ici une partie du problème et non de la solution? Parce que ton cœur n'est pas tranquille en ton Seigneur. Ou pour le dire dans les mots du verset, parce que tu ne l'as pas voulu. Tu n'as pas accepté la façon de Dieu. Tu n'as pas accepté sa solution, la façon que lui veut faire les choses, le timing dans lequel il veut faire les choses. Parce que tu as résisté à sa volonté en insistant sur la tienne, sur ta pensée. Comment toi tu te sens là-dedans? C'est pour ça que Dieu dit au verset 16 du même chapitre, « Vous avez dit non! » Nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons sur des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivent seront légers. Si on joue avec ça avec Dieu, on va perdre. L'idée, là, c'est que hey, moi, je vais essayer de m'en tirer moi-même. Dieu dit, il va trouver un moyen que ça va être encore pire. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Puis il y a une loi spirituelle qui est exprimée. Ah, c'est ça qu'on a chanté tantôt. Celui qui sème selon sa chair moissonnera selon la chair, la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Mais il y a cette loi aussi dans le verset suivant. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Donc la question, c'est quoi que je veux ce matin? C'est quoi que je désire? Et là, je vous amène quelque chose de simple pour terminer. Est-ce que tu veux la bénédiction d'avoir le repos du cœur, la tranquillité? Parce que la question, c'est est-ce que tu le veux? Parce que c'est pas si tu le peux, parce que si personne ne peut. Mais Jésus a dit, puis il reprend, « Ah, Dieu, si tu peux faire ça, si tu peux, il dit, tout est possible à celui qui croit. » L'affaire, c'est pas est-ce que je peux, parce que Dieu peut. Si je crois que Dieu peut le faire. Mais l'affaire, est-ce que moi, je veux? Est-ce que j'accepte de payer le prix, de m'humilier, de baisser les armes et d'accepter la volonté de Dieu? Savez-vous que Dieu peut et promet de sauver quiconque s'approche de lui par la foi? Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le veux? C'est ça la question. Savez-vous que Dieu peut et promet la victoire? Ça nous dit que Dieu triomphe. Et pour nous, nous sommes dans ce triomphe en Jésus-Christ. Mais la question, c'est est-ce que tu le veux? Et donc, ma question, c'est simplement, si on le veut, pourquoi on n'irait pas simplement à lui, maintenant, pour lui exprimer? Seigneur, merci que tu prends nos cœurs troublés, nos pensées agitées, en foule au-dedans de nous, et que tu nous donnes à la place ton repos. Simplement lorsque nos regards se tournent vers toi. Tu dis dans ta parole qu'on est rayonnant de joie lorsque nos regards se tournent vers toi. Seigneur, on ne veut pas se laisser abattre par les ténèbres des problèmes, puis de nos pensées, puis de nos problèmes, puis de notre péché. On en est trop douloureusement conscient. Mon Seigneur, tu es la lumière au bout du tunnel. Tranquillise nos cœurs. Et aussi, Seigneur, que l'un envers l'autre, on coopère dans cette œuvre de grâce dans laquelle tu nous as embarqués. Qu'on s'apprécie les uns les autres. Oh, et Seigneur, que on expérimente ta consolation et aussi que on puisse être des instruments de consolation entre tes mains, Seigneur, pour les cœurs des gens autour de nous autres. Ah, Seigneur, c'est ton œuvre. On veut embarquer dedans à ta façon. Brise et soumets notre résistance à tout jamais. Pour ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.